De retour aux amateurs de sport, que diriez-vous d'une bonne jasette avec notre ami Daniel Brière à la veille de la visite d'un de ses anciens clubs, l'Avalanche du Colorado, qui est à Montréal demain soir? Bonsoir, Daniel!
Salut, Mario!
L'Avalanche du Colorado qui débarque en ville. Hey, quel meilleur timing que d'arriver en ville après les images captées sur le vif, sur le banc, là, l'altercation McKinnon-Bednar, la ville que tu visites ensuite. C'est Montréal, puis Canadien prend congé ouais. En plus, Daniel. Tu t'imagines le nombre de Kodak qu'il y avait autour d'eux autres aujourd'hui?
Je peux même pas imaginer. Je sais pas si Nathan McKinnon avait planifié ça, son entrée à Montréal comme ça, mais ça tombe à point pour les journalistes à Montréal. Il n'y a pas de doute là-dessus.
As-tu été surpris de voir la séquence vidéo sur le banc Landeskog qui reçoit McKinnon, qui est furieux?
Non, pas du tout. En connaissant surtout ces deux joueurs-là, les connaissant très bien, là, ça me surprend pas du tout. Nate McKinnon, c'est un gars qui a beaucoup d'intensité. Des fois, un peu même, quand j'ai joué avec, il était un peu immature de ce côté-là, mais il est tellement, tellement compétitif que je peux très bien voir là, ce qui s'est passé. Il y a eu des commentaires aujourd'hui comme quoi il regrettait et que c'était inacceptable ce qu'il avait fait. Ça, c'est le côté maturité. Je pense qu'il commence à embarquer un peu du côté de Nate McKinnon comparativement à 3-4 ans lorsque j'ai joué avec lui. À ce moment-là, il réalisait pas encore toute l'ampleur là, de ses, disons, ses gestes comme ça qu'il pouvait faire. Là, aujourd'hui, il comprend mieux, mais tu vois, là, il est tellement compétitif des fois qu'il est quand même pas capable de se contrôler. Mais moi, surtout, ce que j'ai aimé dans tout ça, là, c'est les commentaires aujourd'hui de son entraîneur, Bednar, qui dit, écoute, moi, j'ai pas de problème avec ça. Nate McKinnon, c'est un gars qui est très compétitif. Il veut gagner plus que n'importe qui. Puis, je suis capable de vivre avec ça. Fait que pour Nate McKinnon, d'avoir un entraîneur qui est capable de le comprendre, capable d'accepter que des fois, là, il va peut-être aller un peu trop loin, puis il va faire des gestes qu'il va regretter un peu, mais il est capable de comprendre ça. Moi, écoute, je lève mon chapeau à Bednar pour être capable de contrôler puis amener Nate McKinnon à continuer à jouer pour lui. Puis on a entendu, après, les commentaires de McKinnon ont été très, très beaux à l'endroit de son entraîneur. Fait que, c'était pas idéal, mais Bednar a fait, d'après moi, là, a très, très bien récupéré tout ce qui s'est passé.
Si jamais ça ne se replace pas pour l'Avalanche, tu penses-tu qu'on va continuer de pointer en direction de cette séquence, puis on va essayer d'imaginer des scénarios où il y aurait mésentente, où ça serait, tu sais, un point de rupture? Souviens-toi du fameux regard de Carey Price envers Michel Therrien, ouais. Il y a une couple d'années à Columbus. Tu sais, on dirait que ça devient des moments là où on se réfère à ça quand ouais. On essaie d'identifier un moment tournant. Je me rappelle de Taylor Hall qui s'était pogné avec Dallas Eakin, son coach Edmonton. Il y a Bobrovsky ouais. Qui semble avoir un litige avec son organisation à Columbus. Donc, au-delà des belles paroles qu'on tient aujourd'hui, tu penses-tu qu'il va rester quelque chose, qu'on va vraiment passer un autre appel et qu'on va aller de l'avant sans rancune de part et d'autre?
J'ose y croire. Par contre, c'est sûr que les journalistes vont ramener ça. Si ça ne change pas du côté du Colorado, c'est sûr que les journalistes vont continuer à parler de ça. Mais tu sais, il reste que quand on regarde l'Avalanche du Colorado, là, le problème n'est pas Nate McKinnon. Écoute, McKinnon, Landeskog et Rantanen ensemble dominent complètement. Là, puis je pense que c'est plus le reste de l'équipe qui disons, n'est pas capable de
être à la hauteur de ces gars-là. Là, hein?
Ouais, exactement. Donc, moi, je pense pas que ça va être un problème. Puis Bednar a été capable d'éteindre les feux de ce côté-là, a fait du très, très bon travail.
Un autre élément qui a retenu mon attention sur cette séquence vidéo de l'altercation, en tout cas du brouhaha sur le banc, c'est la façon dont Landeskog a remis McKinnon en place. Ouais. Et McKinnon n'a pas réagi négativement à l'intervention de Landeskog. Est-ce que ça nous indique le niveau de respect qu'on a envers le capitaine de l'Avalanche?
Oui. Puis ça, là, je vais vous conter une histoire. Moi, là, j'ai été tellement impressionné. Quand je suis arrivé au Colorado, il était déjà capitaine, Landeskog. Je crois qu'il venait d'avoir 21 ans, peut-être 20 ou 21 ans quand je suis arrivé au Colorado. Puis sa présence dans la chambre, écoute, ça semblait être un joueur qui avait 40 ans et plus. Tout le monde le respectait déjà beaucoup. Je suis rentré dans la chambre pour la première fois. Il a été le premier à se lever, à venir me donner une poignée de main là, serrée et solide. Écoute, j'étais vraiment impressionné par ce jeune homme-là. Je savais qu'il avait juste 20-21 ans, mais je pouvais même pas concevoir. Là, il semblait être en parfait contrôle. Tout le monde dans la chambre le regardait, tout épier ses faits et gestes. Il y a beaucoup, beaucoup de respect de tous les joueurs. Puis on a vu, là, McKinnon a perdu la tête contre son entraîneur, mais jamais a perdu la tête envers son capitaine. Puis ça, là, ça démontre beaucoup de respect là, envers Landeskog. Puis je peux tellement voir, je pouvais tellement imaginer quand il essayait de calmer McKinnon, de le voir comment il s'y est pris. C'était pas de lui crier après, c'était vraiment là, ses gestes, c'était comme pareil comme un père ferait avec un de ses jeunes enfants. Moi, il m'a vraiment impressionné encore une fois Landeskog. C'est la raison pourquoi il est capitaine de cette équipe-là.
Et tu as souligné là, la bonne attitude de Bednar. Bednar aussi a bien réagi live sur le banc. Je ne sais pas comment un joueur se sent après ça quand il voit l'image en boucle. Le joueur ou peu importe la personne qui est prise en flagrant délit de mauvaise réaction en direct, ouais, épiée par les caméras. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais ça ne doit pas être le fun quand tu vois ça en boucle pendant plusieurs jours ensuite, là.
Non, je l'avoue, puis écoute, on en fait tous des erreurs. Puis ce qui est des fois, ce qui est frustrant pour les joueurs, c'est les maudites vidéos, les maudites caméras qui nous font mal paraître. Puis pas juste des séquences comme ça, mais notre jeu, des fois sur la patinoire, tu sais, des fois là, soit les journalistes, soit les entraîneurs vont te critiquer. Tu regardes, tu retournes en arrière, tu vas voir les matchs sur vidéo, puis écoute, moi, là, des fois, là, j'en avais mal au cœur de me regarder patiner ou de pas bouger mes pieds ou de faire des revirements que j'aurais pas dû faire. Donc, oui, les caméras, des fois, ils nous font très, très mal paraître. Puis je suis certain là, que Nate McKinnon n'était pas fier de se regarder par la suite là, faire cette crise sur le banc.
T'as pas trouvé de recette magique pour un jeu de puissance qui réussit pas à sortir d'une grande léthargie, comme c'est le cas à Montréal? Le pire pourcentage d'efficacité d'un jeu de puissance à Montréal en plusieurs décennies, Daniel, c'est incroyable.
Ouais, c'est dur à comprendre. C'est dur à comprendre, surtout avec les joueurs qu'on a pour l'avantage numérique. Un Shea Weber, qui est probablement un des plus dangereux tireurs de la Ligue nationale. Jonathan Drouin. Écoute, Jonathan Drouin, il y a des bons et des mauvais côtés, mais un de ses... C'est vraiment le meilleur côté, c'est la façon dont il peut contrôler le jeu sur l'avantage numérique ou qui contrôle la rondelle et sa vision du jeu. Donc, c'est dur à comprendre quand on a des joueurs comme ça là, qu'on peut avoir autant de misère, mais ça démontre, premièrement, comment les désavantages numériques sont rendus bons dans l'année nationale. Puis aussi, des fois, là, quand on perd la confiance, là, c'est dur de s'en sortir. On vit un peu la même chose ici à Philadelphie avec les Flyers. Écoute, on a des Shane Gostisbehere, des Claude Giroux, Wayne Simmonds et compagnie. Ça fait des années qu'ils jouent ensemble sur l'avantage numérique et on a le même problème ici. C'est dur à comprendre des fois, mais je pense vraiment là, que la confiance a beaucoup à faire.
Daniel, je veux-tu mettre quelques noms d'ailiers droits pour des équipes qui seraient intéressées à mettre la main sur quelqu'un pour venir les aider pour les séries éliminatoires et même davantage, peut-être le mettre sous contrat pour les prochaines années? J'ai quatre noms à mentionner. Il y en a un qui évolue pour les Flyers, alors peut-être que tu pourras pas commenter, mais je t'écoute. Donc, entre Nyquist, c'est sûr que les gars coûteraient pas tous le même prix, on s'entend. Wayne Simmonds, Eberle avec les Islanders et Zuccarello avec les Rangers. Quel joueur, toi, t'intéresserait?
Écoute, c'est de bonnes questions. C'est sûr que de mon côté, j'aime beaucoup Simmonds parce que j'ai eu la chance d'évoluer avec. Je le connais très bien. Écoute, c'est d'après moi le joueur le plus physique du groupe. C'est le joueur alentour du filet qui peut être le plus dangereux également. Moi, j'aime beaucoup Eberle. Mais à cause de son talent, sa vision de jeu, je suis pas sûr que c'est vraiment ce que le Canadien a besoin, par contre. Puis l'autre chose que je dirais, si on parle du Canadien puis on mentionne ces joueurs-là, moi je serais peut-être plus porté à y aller envers un gars comme peut-être Nyquist, Zuccarello, juste parce que je serais pas prêt tout de suite à payer le gros prix pour un gars comme Simmonds, parce que Simmonds va prendre commander un peu plus que ces joueurs-là. Je pense pas que c'est le moment opportun pour le Canadien de dépenser beaucoup en ce moment. Je les vois pas comme un des aspirants à la Coupe Stanley. Oui, ils peuvent faire les séries éliminatoires, mais je suis pas sûr qu'ils peuvent sont prêts à se rendre à la Ligue nationale à la Coupe Stanley. Puis, on devrait peut-être attendre encore là, quelques années, laisser les jeunes joueurs se développer encore plus pour qu'on puisse y arriver.
Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui entendent tes propos qui sont du même avis que toi. On semble devenu très raisonnable comme amateur à Montréal, Daniel, tout d'un coup. Qu'est-ce qui s'est passé?
Écoute, c'est dur à comprendre, mais écoute, les gens, surtout au Québec, là, c'est des connaisseurs de hockey. Ils savent très bien. Ils ont vu ce qui s'est passé avec le Canadien l'an dernier. Ils sont très, très contents là, des performances cette année, mais ils réalisent que il manque peut-être encore quelques morceaux à l'équipe. C'est de laisser là, ces jeunes joueurs-là se continuer à se développer parce que ce qu'on voit là, cette année des jeunes joueurs, c'est vraiment fabuleux. Puis ça inaugure bien là, pour le futur du Canadien. On veut juste pas mettre en péril là, trop ça.
Est-ce que tu t'attends de voir Simmons finir l'année avec les Flyers en autant que tu puisses répondre, Daniel?
Ben, c'est une question délicate. On ne sait pas trop de ce côté-là. C'est sûr que ça regardait comme ça avec Ron Hextall. Mais là, avec Chuck Fletcher, on n'est pas sûr. J'ai entendu dire là, qu'on essaierait de voir s'il serait possible d'en venir à une entente avec Wayne Simmons. Mais moi, j'ai comme l'impression que si on n'est pas capable à en venir à une entente, que plutôt que de le perdre pour rien, surtout là, que les Flyers, ça va pas bien, ça regarde pas comme s'ils vont faire les séries éliminatoires. Je pense pas qu'ils vont être prêts là, à perdre un gars comme Wayne Simmons pour rien au 1er juillet. Donc, à moins qu'on trouve une façon de s'entendre à long terme, avant la date limite des échanges, j'ai comme l'impression que Wayne Simmons pourrait être sur le départ.
Ben Daniel, je te remercie beaucoup de tes commentaires et j'en profite parce que c'est notre première conversation en 2019 pour te souhaiter une très, très bonne année. Santé, puis encore de la santé, puis le reste, je suis convaincu que tu vas t'organiser avec ça. Hein?
Ben merci beaucoup, toi-même, Mario, et à tous nos auditeurs également.
Et je sais que tu es venu faire du ski pendant les fêtes à Tremblant, puis j'étais curieux de savoir, es-tu content de renouer avec ce sport? Parce que pendant votre carrière de hockeyeur, vous devez mettre ça de côté complètement, vous autres.
Oui, j'ai passé plusieurs années à ne pas faire de ski. J'ai skié en grandissant, puis par la suite, j'ai mis ça de côté pendant plusieurs années. Une des années où j'ai fait du ski, c'est pendant un des lockouts où j'ai joué en Suisse. Je me suis permis là, quelques petites escapades dans les montagnes, mais à part ça, là, j'ai été tout près de 20 ans sans faire de ski. Puis je m'étais promis qu'une fois à la retraite, là, je voudrais y retourner. Donc j'en profite quand je peux là, de nos jours.
Ben, tant mieux pour toi. Merci beaucoup encore une fois, Daniel, et je te dis à la semaine prochaine.
Merci beaucoup, Mario.
Merci, Daniel. À la semaine prochaine. À bientôt. On revient dans quelques instants. Gros week-end de football. J'ai oublié d'en parler à Daniel de ses Eagles contre les Saints. Qui va gagner ça, Daniel?
Ah, mon Dieu, on pousse fort, c'est pas facile du côté des Eagles, mais écoute, là, les Saints sont vraiment une très belle équipe. Je pense que ça va être dur. Moi, j'irais peut-être plus pour les Saints, même si je vais prendre pour les Eagles.
Merci, Dan. Et Bruno Eppel nous donne son avis d'expert au retour de la pause. À tout de suite.